Père Nicolas Sautreau, bonsoir.
Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Avant l'émission, j'ai oublié de vous demander si vous avez parlé de Notre-Dame de la Salette aujourd'hui sur l'antenne. Parce que le 19 septembre, c'est la fête de Notre-Dame de la Salette.
De ce que j'ai pu entendre de mon côté, pas sur l'après-midi en tout cas.
D'accord. Parce que ici à Ars, à cause des liens particuliers entre le curé d'Ars et Notre-Dame de la Salette, cette fête est particulièrement mise à l'honneur. Et c'est très intéressant parce que Saint Jean-Marie Vianney a commencé par ne pas croire aux apparitions. Il s'est renseigné, puisque ça se passait pendant qu'il était curé à Ars, et il a dit non, pour moi, rien de surnaturel. Et lorsque l'évêque de Grenoble, Vienne, a dit si il y a un phénomène surnaturel, j'engage mon autorité, Saint Jean-Marie Vianney, tout de suite, a dit ben, je me suis trompé. Et dorénavant, j'écouterai les messages de la Salette et puis je fêterai Notre-Dame de la Salette. C'est un très bel exemple dans la vie du curé d'Ars. Ça n'a pas de rapport immédiat avec Jean Danielou, mais en ce 19 septembre, c'est beau de rappeler la sainteté et l'humilité de quelqu'un comme Saint Jean-Marie Vianney. Donc notre titre, c'est « Dieu tellement vivant » et pour essayer de le justifier encore une fois, je voudrais vous proposer à tous une toute petite phrase extraite des carnets spirituels de Jean Danielou. Il n'est pas encore prêtre à ce moment-là. Il a 31 ans, 31 ans. Et dans ses petits carnets spirituels, pour ses résolutions, il écrit « Être une âme vivante ». Voilà, c'est sa résolution. « Être une âme vivante, sincère, entière et vivre pleinement l'aventure de la vie. » Voilà. Être une âme vivante. Au contact du Dieu vivant, au contact du Christ à jamais vivant, être une âme vivante. Être saturé de la vie du Seigneur. Et cela, il nous le rappelle dans sa très belle étude Bible et liturgie, commence d'une manière très forte avec le sacrement du baptême. Vous vous souvenez peut-être que nous étions dans le déroulement de ce sacrement, nous pensions à notre baptême, le jour où nous avons reçu ce sacrement du baptême, et nous en étions à ce signe de croix sur le front, tracé avec le pouce droit, et que Jean Danielou nomme avec son terme grec, un peu difficile à prononcer et difficile à écrire, « sphragis ». Alors j'essaye de pas trop l'utiliser, de remplacer par signe de croix sur le front, mais dans le texte de Jean Danielou, c'est tout le temps ce mot grec « sphragis ». Et nous continuons à scruter ce geste du baptême et à comprendre que le renouveler souvent sur nous-mêmes ou sur un proche, c'est un sacramental merveilleux. Nous nous souvenons que ce signe de croix sur le front rend le chrétien redoutable aux démons. C'est l'enseignement des pères de l'Église. Et nous sommes ramenés avec cette idée d'être redoutable aux démons, qui sera une idée et une expression qui sera reprise par Blaise Pascal en parlant du Seigneur Jésus, saint, saint, saint à Dieu et redoutable aux démons, terrible aux démons. Donc Blaise Pascal reprenait cette belle théologie des premiers pères de l'Église. Avec cette idée d'être redoutable aux démons, nous renouons avec cet aspect central du baptême et de notre vie de baptisé, le fait que c'est un combat. La vie est un combat. Et l'imposition de la croix va apparaître comme une forme du combat contre les ténèbres, du combat contre le prince des ténèbres. L'usage du signe de la croix sur notre front dans toute la vie chrétienne est l'expression du fait que notre vie continue chaque jour, chaque instant d'être un combat. Par le baptême, nous avons la certitude sacramentelle que le mal a été vaincu. Marqué du signe de la croix sur son front, le nouveau baptisé n'appartient plus au monde des ténèbres. Et dès lors, il suffit au nouveau baptisé de faire à nouveau ce signe avec le pouce droit sur son front pour repousser les attaques du mal et mettre en fuite le prince du mal. Une remarque intéressante, c'est que cette manière de se signer qui n'embrassait pas tout le haut du corps existait à une époque où l'Église sortait de la persécution, ou était dans la persécution subie de la part de l'Empire romain, était dans un monde païen, un monde agressif par rapport à la foi, et qu'aujourd'hui, peut-être que parfois, il est bon de ne pas se signer d'une façon trop ostentatoire. Quand on est dans la rue, dans les transports en commun, c'est peut-être pas toujours recommandé, c'est peut-être pas toujours évangélisateur. L'Esprit Saint nous guide pour savoir quand il faut être dans l'audace et quand il faut être dans une forme d'humilité, dans une forme d'effacement. Si tout était simple, nous n'aurions pas besoin du don de conseil reçu au baptême et déployé à la confirmation. Eh bien, faire ce signe de croix avec notre pouce droit sur notre front, ce geste étant un peu plus discret, peut nous permettre d'accomplir très souvent ce geste de don de soi au Seigneur, et aussi, comme le dit Jean Danielou, avec la simplicité qu'il caractérise, de combat contre le démon. Un geste de combat, un geste par lequel nous engageons le combat. Eh bien, cette idée de la victoire, cette idée de la domination sur le mal, va nous introduire un nouveau aspect du symbolisme de la sphragis. Dans l'usage du monde, ce sceau servait à marquer les brebis et les soldats. Nous avons laissé jusqu'à présent de côté une troisième utilisation qui est de marquer les esclaves. Cette utilisation semblait très répandue dans l'Orient. Les esclaves étaient marqués d'un signe d'appartenance ineffaçable sous la forme d'un tatouage. Et ce tatouage se faisait sur le front, à la différence de celui des soldats qui était souvent sur le bras. Donc le tatouage sur le front, le signe incrusté dans le front de celui qui reçoit le baptême, évoque un saint esclavage. Là, nous sommes vraiment frappés de voir que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, en développant le saint esclavage d'amour à l'égard de la Vierge Marie, en fait, manifestait sa très bonne connaissance des pères de l'Église. En Occident, par contre, il semblerait que seuls les esclaves fugitifs étaient marqués de cette manière sur le front. Et pourtant, saint Ambroise de Milan, toujours au IVe siècle, écrit « Les esclaves sont marqués du signe de leur maître ». Il y a un désir d'être stigmatisé, puisque un autre mot pour parler de ce signe de croix sur le front, c'est « stigma », qui en effet a donné stigmatisation. Celui qui s'approche du baptême demande à entrer dans un mystère d'esclavage d'amour à l'égard de son maître et seigneur. Il faut ajouter que cette sphragis ne marquait pas seulement l'appartenance d'un esclave à un propriétaire temporel, mais elle désigne aussi la marque par laquelle le fidèle d'une divinité païenne signifiait son appartenance à cette divinité. Nous rapprochons vraiment tout près de l'utilisation baptismale de cette marque sur le front. Cela éclaire le passage de saint Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 17, où saint Paul dit que personne désormais ne me suscite d'entrave, car je porte sur mon corps les stigmates du Seigneur Jésus. Et ces stigmates ne doivent pas être compris d'abord au sens des stigmates tels qu'on en parle aujourd'hui, mais d'abord cette idée d'une appartenance totale au Christ Seigneur. L'imposition par Dieu lui-même d'une marque qui rend un être inviolable, est dans la Bible. Donc nous n'avons pas besoin de la connaissance de l'histoire, de l'archéologie, de la connaissance de la vie du monde païen. Notre connaissance de la Bible, de l'Ancien Testament, nous permet de nous réapproprier ce geste par lequel nous marquons notre front du signe de la croix. Une marque qui rend un être inviolable. Le premier exemple, c'est celui de Caïn, que Dieu marque d'un signe pour que personne ne le tue. Et les commentaires rabbiniques, les commentaires ensuite chrétiens, nous disent que ce signe, cette marque, elle est sur le front. Et ce signe, comme nous l'avons déjà vu, est un signe de protection. C'est l'affirmation qu'il y a une protection de Dieu sur l'homme pécheur. Dans Ézéchiel, nous avons à nouveau la marque de Dieu sur le front pour les membres de l'Israël futur. Et il est très remarquable que dans Ézéchiel, ce signe est une croix. On dit un taux, donc la croix avec simplement la plus haute branche verticale qui manque, un T, ce signe de la croix. Donc dans l'Ancien Testament, déjà, c'est le signe de la croix qui est imprimé sur le front de ceux qui vont appartenir au nouvel Israël, à l'Israël de Dieu, à l'Israël de la fin des temps. Évidemment, ce taux, ce signe de la croix, est dans le Nouveau Testament et particulièrement dans l'Apocalypse. Ce signe de la croix, exprimé comme un signe eschatologique, un signe de la fin du monde, de la fin des temps, ce signe de la croix aurait son origine dans le baptême. Donc en fait, un certain nombre de spécialistes nous disent que ce passage de l'Apocalypse a été probablement écrit en méditant sur la célébration du sacrement du baptême. Et en avançant une telle hypothèse bien fondée, on affirme que la célébration du baptême, pendant les premières dizaines d'années de la vie de l'Église, comprenait déjà ce geste. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse forte et raisonnable, on comprend le sens que va prendre cette signation sur le front. Ça va être celui du caractère inviolable du chrétien. Cyrille de Jérusalem dit « Toi, tu sais, le prêtre t'a marqué sur le front de la sphragis et tu reçois l'empreinte du sceau, tu es consacré à Dieu et tu es protégé d'une façon inviolable par Dieu lui-même. » Tout cela est mis en rapport immédiat avec la croix du Seigneur Jésus. C'est par sa croix que le Christ a dépouillé les puissances, les principautés du mal. Elles sont toutes vaincues. Et le chrétien, c'est-à-dire nous, par son baptême, participe à cette victoire du Christ. Par la grâce du baptême, d'une façon initiale, qui cherche à être approfondie, à être développée, par la grâce du baptême, les puissances du mal n'ont plus le même pouvoir sur celui qui a reçu déjà ce signe de la croix. Et voilà pourquoi Celui qui se signe de cette manière-là, du signe de la croix, le fait pour rappeler aux puissances ennemies leur défaite dans le baptême, et pour que les puissances ennemies s'enfuient en pleine déroute. Alors, ceci est vrai déjà du rite baptismal lui-même. Cyrille de Jérusalem, toujours, explique l'invocation de la grâce qui marque ton âme de la sphragis ne permet pas que tu sois absorbé par le démon. Qu'une réminiscence du livre de Jonas, absorbé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Tu ne peux plus être absorbé par le démon. Évidemment, tout cela est écrit avec beaucoup de précision. Ce n'est pas parce que nous sommes face à des textes très très anciens, donc du 4e siècle ou du 5e siècle, qu'il n'y a pas une recherche de précision. Absorber ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque. Être absorbé, c'est vraiment être englouti, totalement englouti. Et c'est de cela dont nous sommes protégés par la marque de la croix du Christ, c'est de cela dont nous sommes protégés par le sacrement du baptême. Nous pouvons affronter sans crainte le mal dans le combat suprême du baptême. Voilà, nous sommes toujours dans l'idée que c'est un adulte qui est baptisé et qu'il y a un combat autour de la célébration du baptême. Que dans les jours qui précèdent le baptême, celui qui s'est pourtant tellement préparé peut ne plus avoir envie du tout, peut douter, peut se demander s'il ne faut pas reporter ce sacrement du baptême. Il y a vraiment un grand combat par rapport à la réception du baptême lui-même. Et voilà pourquoi on renouvelle ce signe de la croix sur le front pour pouvoir affronter ce combat et être déjà victorieux en recevant le sacrement. Nous pouvons transposer facilement avec le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Un grand nombre de pénitents à Ars disent qu'ils ont vraiment dû lutter pour prendre la route et venir jusque dans la basilique d'Ars et recevoir le sacrement de la pénitence. Qu'il y ait eu un combat, que ça ne s'est pas fait tout seul et qu'ils ont, pour certains, ils ont reporté plusieurs fois, voire des dizaines de fois, et que ce signe de la croix rappelant notre consécration baptismale peut être un moyen de remporter ce combat face au sacrement. Le Seigneur ne donne pas les choses saintes aux chiens, dit-il dans l'Évangile. Mais lorsqu'il voit une conscience droite, il imprime sa croix salutaire et admirable qui fait la crainte des démons. Saint Cyrille de Jérusalem parle beaucoup de cet usage qu'avaient les chrétiens de son époque de se signer d'une croix sur le front dans toutes les circonstances de la vie. Ça rejoint ce que je m'étais permis d'ajouter au texte. Au sujet de notre vie quotidienne d'aujourd'hui, dans un monde qui peut croire que c'est une provocation, que de faire un grand signe de croix sur son corps, depuis le front jusqu'à la poitrine, l'épaule gauche et l'épaule droite. Cela manifeste le côté pertinent du recours aux petits signes de croix. Voilà ce que disait à son époque, Saint Cyrille de Jérusalem, dans toutes les circonstances de la vie. Ne rougissons pas de la croix du Christ, mais même si un autre la dissimule, toi, porte-en la marque publiquement sur ton front, afin que les démons, ayant vu le signe royal, s'enfuient au loin en tremblant. Fais ce signe en mangeant et en buvant, quand tu es assis, quand tu es couché, quand tu te lèves, quand tu parles, en un mot, en toute chose. N'ayons pas honte de confesser le crucifié. Faisons le signe de la croix avec assurance sur notre front, avec notre pouce, et ceci en toutes circonstances. Quand nous mangeons, quand nous buvons, en entrant, en sortant, avant de nous endormir, en nous couchant et en nous levant. C'est là une grande protection. C'est là être gardé. C'est le gardiennage de Dieu. C'est le mot précis qu'il met en grec. Une grande protection gratuite pour les pauvres, facile pour les faibles, puisque la grâce vient de Dieu. C'est un signe pour les croyants et une terreur pour les démons. Le signe de la croix a triomphé d'eux dans la croix. Aussi, lorsque les adversaires voient la croix, ils se souviennent du crucifié. Ils craignent celui qui a écrasé les têtes des démons. C'est comme toujours très direct comme prédication. De la valeur de ce signe de la croix sur le front, nous pouvons trouver une illustration dans la vie de saint Antoine du désert, celui qu'on présente comme le premier des moines du désert d'Égypte, au sujet de la fameuse tentation de saint Antoine sur laquelle on peut raconter tant de choses inexactes et peu intéressantes. Des personnes viennent donc visiter saint Antoine, et comme il ne les laisse pas entrer dans sa cellule, ces personnes sont forcées de passer dehors le jour et la nuit. Et voici qu'elles entendent à l'intérieur comme des clameurs de foule, comme des vociférations, des gémissements, des hurlements. Elles entendent distinctement ces mots « Va-t'en de chez nous. Qu'as-tu à faire avec le désert ? Tu ne supporteras pas nos attaques. » Alors au début, ceux qui étaient dehors pensaient qu'il y avait à l'intérieur des gens qui se battaient avec saint Antoine. Mais ayant regardé par le trou de la serrure et n'ayant rien vu, ils comprirent que c'était des démons. Et ils ont pris peur et ils se sont mis à appeler saint Antoine. Saint Antoine, prêtant plus d'attention à ses visiteurs qu'aux démons, s'approcha de la porte et les invita à se retirer. Il leur dit « Signez-vous et partez avec assurance. Mettez la sphragis sur vous-même et partez avec assurance. » Alors ils s'en allèrent munis du signe de la croix. Beaucoup d'histoires de démons, c'est vrai que nous sommes au début de l'histoire de l'Église, mais il y a tout ce combat contre le mal qui finalement est résumé dans ce genre d'histoire avec saint Antoine du désert, mais qui n'est pas seulement résumé, qui est illustré. Et tout ce combat contre le mal va être soutenu par l'imposition du signe de la croix sur notre front. Le front étant pas seulement le lieu des pensées, mais aussi le lieu des décisions. Alors, à tant de siècles de distance, grâce au relais que constitue le cardinal Danielou, nous pouvons bien nous mettre à l'école de tels maîtres et dire que pratiquer, encore une fois, parfois avec une certaine discrétion, ce geste de signe de la croix sur notre front est un moyen en même temps de redire notre amour à celui qui est notre maître et seigneur, en même temps une action de grâce pour notre baptême, une prière pour que le don du baptême œuvre en nous, et un combat pour que les ténèbres soient repoussées et que la lumière de la charité puisse gagner du terrain dans notre monde.
Chers auditeurs, Père Nicolas Sautreau, nous avons Christiane qui a un témoignage pour vous. Christiane ?
Oui, bonjour Père.
Bonjour.
C'est pour vous remercier parce qu'en fait, nous on se fait souvent le signe de croix sur le front quand ma fille vient me voir ou les petits-enfants ou comme ça. Mais je ne savais pas que le fait de faire le signe de croix sur le front pouvait aussi aider à chasser les mauvaises idées ou les attaques du démon. Et donc, comme ça, je vais pas pouvoir le faire encore plus souvent, quoi. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attaques. Donc, pour ça, je voulais vous remercier parce que je savais pas. Enfin, je comprends mieux, quoi, maintenant, toutes ces choses.
Et c'est le lien avec le baptême qui est merveilleux.
Oui,
Quand
c'est
on
ça.
participe à un baptême, même les baptêmes de bébés, on voit
Oui.
ce signe au tout début du baptême, et c'est ça qui donne toute cette symbolique. Vous voyez, avec beaucoup de foi, nous pouvons, encore une fois, sur nous-mêmes ou sur nos proches, utiliser ce petit signe de la croix sur notre front.
Voilà, le problème c'est que des fois il y en a, ils veulent pas, hein. Mais bon, on peut toujours le penser comme si on leur faisait, de toute façon.
Sainte liberté, oui. À
Voilà,
ce moment-là,
d'accord.
nous les confions au Seigneur. Oui.
Oui. Merci beaucoup, Père.
Merci, Christian.
Merci pour votre témoignage.
Merci,
Merci.
au revoir.
Alors nous retrouvons Jean Danielou.
Oui, nous vous écoutons.
On n'est pas beaucoup quitté d'ailleurs. Alors Jean Danielou était un jeune homme, un homme, puis un prêtre d'une innocence, d'une pureté, d'une candeur, d'une simplicité très étonnante. Et c'est dans cette innocence qu'on pourrait parfois prendre pour de la naïveté, qu'il va développer tout le lien que mettaient les pères de l'Église entre la sphragis et la circoncision. Pour lui, c'est extrêmement naturel de parler du mystère de la circoncision, bien sûr d'abord parce que le Seigneur Jésus a vécu ce mystère, c'est la fête du 1er janvier, mais aussi parce que il faut que tout ce qui est dans l'Ancien Testament puisse être habité par notre foi chrétienne. Et la circoncision est une réalité importante de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Après la foi, nous recevons comme Abraham la sphragis spirituelle étant circoncis dans le baptême par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'affirme Saint Cyrille de Jérusalem. Nous avons été circoncis dans le baptême par le Saint-Esprit. La sphragis baptismale, déjà avant l'acte du baptême, est mise en relation avec la circoncision juive. La circoncision était comprise comme le sceau de l'alliance avec Dieu. C'était l'incorporation à l'Israël ancien. Et le baptême est le sceau de la nouvelle alliance, il est l'incorporation au nouvel Israël. Saint Paul fait souvent allusion à la sphragis, et dans l'Épître aux Éphésiens, il dit: C'est dans le Christ que vous avez cru, que vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est le lien qui est établi entre la foi et le sceau du Saint-Esprit. La marque de la croix est la marque de la foi. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 4e, Saint Paul se sert du mot sphragis pour désigner la circoncision d'Abraham. Il dit: Abraham a reçu le signe de la circoncision comme une sphragis de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il n'avait pas encore la circoncision. Quand Saint Paul parle de la sphragis des chrétiens, il semble bien qu'il mette un parallèle très fort entre le baptême et la circoncision. L'usage du mot sphragis pour désigner la circoncision se rencontre souvent. Saint Paul l'emploie pour la première fois, mais ensuite, tous ceux qui vont commenter dans les premiers siècles le sacrement du baptême vont le faire aussi. Eusèbe de Césarée, par exemple, qui dit: Abraham, alors qu'il était âgé, le premier a subi la circoncision dans son corps comme une sorte de sphragis, transmettant ce signe à ceux qui devaient naître de lui comme une marque de leur appartenance à sa race. Donc, nous retrouvons par ce chemin-là le thème de l'appartenance. L'appartenance à Dieu et l'appartenance à l'Église. La circoncision est la marque de l'appartenance à la race d'Abraham, à l'Israël ancien, et elle est le gage des promesses qui sont faites par l'Alliance. Ce qu'à la suite de saint Paul, tous ces spirituels affirment, c'est que la vraie sphragis, la vraie circoncision, c'est celle de l'Alliance nouvelle et éternelle dans le sang du Seigneur Jésus versé sur la croix et dans la puissance de sa bienheureuse résurrection. Saint Paul le dit dans la lettre aux Galates, « Pour moi, Dieu me garde de me glorifier, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car dans le Christ, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, ce qui est tout, c'est d'être une nouvelle créature. Je porte sur mon corps la sphragis du Christ Jésus. » Ce qui est pour saint Paul une marque de sa dignité, ce qui en fait un homme consacré à Dieu, il l'affirme très très fort, ce n'est plus la circoncision que pourtant il a reçue, c'est la croix du Christ qui a été tracée de façon sacramentale sur son front. Cette sphragis baptismale en forme de croix est opposée à la circoncision de l'ancienne alliance. Vous direz peut-être qu'on circoncisait le peuple juif pour mettre un sceau de l'alliance. Apprenez qu'Abraham, qui le premier pratiqua la circoncision, l'accomplit en esprit, ayant les regards sur Jésus. L'Écriture dit qu'il a circonscrit son entourage. Eh bien, l'Écriture dit aussi que c'est avec une croix en forme de T qu'il l'a accompli. Tel est le commentaire de saint Eusèbe. Il y a donc un parallélisme entre la circoncision et le signe de croix sur le front. Pourquoi la circoncision a-t-elle lieu le huitième jour après la naissance? Parce que pendant les sept premiers, l'enfant portait des langes. Mais le huitième jour, débarrassé de ses langes, il recevait la circoncision, signe du sceau de la sphragis de la foi d'Abraham. C'est l'image de ce que nous aussi, après avoir porté les huit jours de la vie, c'est-à-dire les liens du péché, nous devons à la fin des temps rompre les liens du péché, être circoncis de la mort et de la résurrection du Seigneur, et comme le huitième jour, embrasser la vie des anges. C'est pour apprendre aux chrétiens, dès avant les langes, à marquer les enfants du sceau par le baptême dans la circoncision du Christ. C'est une remarque très intéressante qui fonde la pratique des chrétiens orientaux de donner le baptême soit dans les huit jours après la naissance, soit le huitième jour. On voit que cela remonte à ce parallélisme entre la circoncision donnée au huitième jour et le baptême donné au huitième jour. C'est le baptême des tout-petits-enfants. Et c'est ce baptême des tout-petits-enfants qui est défendu avec force par cette pratique de l'Église d'Orient qui nous permet de saisir à quel point le sceau du baptême sur le front est la nouvelle circoncision, est un mystère de circoncision, un mystère d'appartenance, de consécration à Dieu et d'appartenance à la communauté. Le parallèle de la circoncision au huitième jour et du baptême comme participation à la résurrection du Christ est très très fréquent. Le baptême doit être donné le huitième jour, comme la circoncision. Le précepte de la circoncision qui ordonne de circoncire les enfants au huitième jour est l'image de la circoncision véritable qui nous circoncit de l'erreur et du péché par celui qui est ressuscité des morts le premier jour de la semaine, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un pas supplémentaire qui nous est donné par saint Ambroise, l'évêque de Milan au IVe siècle, pour faire comprendre comment une pratique aussi étonnante que le fait de retirer un morceau de chair peut être porteuse d'un sens très profond. Il dit être circoncis de l'erreur et du péché. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit retiré de notre âme. Il faut qu'il y ait une partie de notre âme qui soit comme coupée et jetée au loin, comme le dit le Seigneur Jésus dans l'Évangile. Et cette partie-là, c'est l'erreur et le péché. Et c'est ce qu'accomplit le sacrement du baptême tout entier. Et dans l'explication, c'est ce qu'accomplit déjà le signe de croix sur le front. Il y a une relation aussi entre la sphragis et le Saint-Esprit. Cette relation se retrouve chez beaucoup des spirituels de cette époque de la vie de l'Église. Et un des exemples, c'est Saint Cyrille de Jérusalem, encore une fois, qui dit « Le sceau de la communion du Saint-Esprit vous a été donné par le signe de croix sur le front. » C'est le signe de la croix qui manifeste que le Christ ressuscité, le Christ crucifié et ressuscité est là, qui s'imprime en nous, mais le signe de la croix, d'une façon plus étonnante, est mis en relation avec l'Esprit-Saint. Partout sont le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Une est l'opération, une est la sanctification. Mais certaines choses paraissent pourtant spéciales. Dieu, le Père, t'a donné l'onction. Dieu, le Fils, le Seigneur, t'a marqué du sceau. Et le Fils a mis l'Esprit-Saint dans ton cœur. Tu as donc reçu l'Esprit-Saint dans ton cœur. C'est en mettant la croix du Christ sur le front que finalement le cœur est marqué par la présence du Saint-Esprit. C'est le Christ lui-même qui te marque d'un sceau. Lorsque nous prenons notre main droite pour tracer le signe de la croix sur notre front, nous croyons de tout notre cœur que c'est la main du Christ qui est en train de tracer ce signe de sa propre croix à lui sur notre front. Nous, comme dans le sacrement du sacerdoce où le prêtre prête ses mains au Christ pour accomplir les sacrements, pour accomplir les gestes sauveurs, de la même manière, nous prêtons notre main au Christ pour que ce soit lui qui imprime sa croix sur nous. Et pendant qu'il imprime sa croix sur nous, il nous donne le Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous faisons ce geste, nous implorons ce sceau du Saint-Esprit au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, et nous le faisons par la croix du Christ, par sa sainte croix et sa sainte résurrection. Le baptême est le don du Saint-Esprit. C'est une des belles définitions du baptême. Et lorsque nous traçons à nouveau le signe de la croix sur notre front, nous faisons comme réactiver ce don du Saint-Esprit qui est offert par le Père, par la croix, par la sainte passion et la sainte résurrection du Seigneur Jésus. Puissions-nous, à chaque fois que nous allons renouveler ce geste, nous laisser imprégner, nous laisser imprimer par l'Esprit-Saint paraclet en personne.
père, nous avons reçu deux SMS que je vais vous lire. Peut-on conseiller à quelqu'un qui n'est pas encore baptisé mais qui aime le Christ et qui est en recherche et qui peut être en conversion de faire le signe de la croix pour se protéger quand il a des problèmes? Et ça, c'est Noël qui nous envoie ce premier message.
Bien sûr, comme toutes les bénédictions peuvent être toutes données à ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême. Oui, c'est une très belle pratique.
Deuxième SMS, pardon. « Bonsoir, ma mère avait l'habitude de faire le signe de la croix sur moi, le front ou le cou. Et moi, je me trouve aujourd'hui en train de le faire naturellement quand j'ai de mauvaises pensées. Vos paroles me rassurent, merci. » Voilà pour ce deuxième SMS.
Eh bien, merci à Jean Danielou d'avoir passé des millions d'heures à travailler les Pères de l'Église, parce que ça nous permet de recueillir des trésors de sagesse et de foi.
Je pense que nous arrivons au terme de l'émission. Merci à vous, en tout cas,
tout à
Père.
Fait.
Nous vous retrouvons la semaine prochaine.
La semaine prochaine. Oui.
Merci
Bonne
beaucoup.
Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était l'émission avec le Père Nicolas Sautreau en direct, Dieu tellement vivant sur le cardinal Jean Danielou. Aujourd'hui, nous parlions du signe de la croix sur le front. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire dans quelques jours sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.